Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 20 mars 2023, en direct de Washington, Idrissa Seloudia. Pour commencer, les titres. En Guinée, pour favoriser le dialogue avec la junte, l'opposition reporte une manifestation qui était prévue ce lundi à Conakry. De nouvelles tueries de civils dans l'est de la RDC et reprise des combats avec les rebelles du M23. Xi Jinping appelle à punir les meurtriers de 9 citoyens chinois sur un site minier en Centrafrique. Au Gabon, le bilan du naufrage d'un ferry s'alourdit à au moins 24 morts. Le président chinois Xi Jinping en visite d'État aujourd'hui en Russie. En France, le gouvernement fait face à 2 motions de censure aujourd'hui à l'Assemblée nationale. L'Égypte accueille des pourparlers israélo-palestiniens pour amener le calme entre les deux parties. La banque UBS absorbe Crédit Suisse pour rétablir la confiance. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. En Guinée, l'opposition a annoncé hier avoir reporté une manifestation contre la junte prévue ce lundi à Conakry, et ce pour un apaisement dans le pays et l'ouverture d'un dialogue crédible avec le pouvoir, Michel Joseph.
Les forces vives de Guinée, une coalition des principaux partis, de syndicats et d'organisations non gouvernementales, décident d'accéder à la demande des autorités religieuses, musulmanes et chrétiennes en vue de mener leur démarche de conciliation dans le calme et la sérénité. Le report de la manifestation fait suite à l'abandon, annoncé vendredi, des poursuites contre un cadre des forces vives à Dulsako. Il avait été inquiété pour son implication dans l'organisation de manifestations interdites. Outre un arrêt des poursuites et des harcèlements judiciaires, les forces vives réclament notamment des autorités l'acceptation d'un dialogue sous la présidence de la CDAO, selon un communiqué. Le Front national de défense de la Constitution, FNDC, l'une des composantes des forces vives, a indiqué cette semaine sur les réseaux sociaux avoir dénombré 17 morts victimes de la répression sanglante exercée par le pouvoir et quasiment tous tués par balle depuis le début de la contestation contre la junte à l'été 2022. Elle réclame un retour rapide des civils au pouvoir et la libération de tous les prisonniers qu'elle considère comme politiques. La junte, qui a pris le pouvoir par la force en 2021, a interdit toute manifestation en Guinée.
Au Mali, 2 employés du Comité international de la Croix-Rouge, kidnappés il y a 2 semaines entre Gao et Kidal, dans le nord du pays, ont été libérés sains et saufs et sans condition hier soir, a annoncé sur Twitter la branche malienne du CICR. L'ONG a remercié tous ceux qui ont contribué à leur libération, sans plus de détails. Au Nigeria, les premiers résultats ont été annoncés hier soir après des élections locales marquées par des violences, des irrégularités et des signes de faible participation. À Lagos, le gouverneur sortant, Baba Jide Sanwo-Olu du parti présidentiel APS, APC, était en tête selon des résultats partiels de la commission électorale, en opposant a déjà évoqué des fraudes. En Sierra Leone, les forces de l'ordre sont accusées par Amnesty International d'avoir fait usage d'un recours excessif à la force lors des émeutes meurtrières d'août 2022, sur lesquelles la lumière et la justice restent à faire. C'est ce qu'affirme l'ONG dans un rapport publié ce lundi. Elle appelle à des enquêtes impartiales et transparentes sur ces événements, lors desquels 6 policiers et 27 civils ont été tués, selon un bilan officiel. Les autorités avaient imposé un couvre-feu pendant ces troubles, partie d'une manifestation pacifique de femmes contre la vie chère. En République démocratique du Congo, une 20aine de civils ont été tués samedi dans 2 attaques distinctes dans l'est du pays. Des combats ont par ailleurs repris entre l'armée et les rebelles du M23, affirment des sources locales Abdourahmane Dia.
Dans la province d'Ituri, la milice Codeco, qui affirme protéger la tribu Lendu face à la tribu Emma, est accusée d'avoir attaqué samedi matin 5 villages du territoire de Mahagi. Dans la province voisine du Nord Kivu, ce sont les rebelles ADF affiliés au groupe djihadiste État islamique qui sont accusés d'avoir tué au moins 9 personnes dans le village d'Ongouli, en territoire de Lubero. Les victimes ont été tuées à l'arme blanche, à coups de machette et de couteau. Une dixième personne est grièvement blessée et 2 enfants sont portés disparus, a indiqué le chef de village. Dans la même province du Nord Kivu, mais plus au sud, des combats ont par ailleurs repris samedi entre l'armée et les rebelles du M23 dans le territoire de Masisi, au nord-ouest de la capitale provinciale Goma, après quelques jours d'accalmie. Dans un communiqué, l'armée congolaise a accusé la rébellion d'avoir attaqué au moins 6 de ses positions et de commettre de récurrentes violations du cessez-le-feu qui aurait dû intervenir le 7 mars.
Xi Jinping a appelé les autorités centrafricaines à sévèrement punir les meurtriers de 9 citoyens chinois sur un site minier du centre du pays, a annoncé ce lundi Pékin. Le président chinois a appelé à déployer tous les efforts nécessaires pour soigner les blessés, à gérer les conséquences de ce drame, à sévèrement punir les meurtriers conformément à la loi et à assurer la sécurité des citoyens chinois, a indiqué un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Xi Jinping et Vladimir Poutine ont loué lundi la solidité de leur partenariat bilatéral quelques heures avant l'arrivée du président chinois à Moscou pour un sommet avec son homologue russe isolé sur le plan international. Cette visite d'État de 3 jours en Russie, un pays avec qui la Chine a d'importants liens diplomatiques et économiques, est la première du dirigeant chinois chez son voisin depuis près de 4 ans. Dans un article publié dans le journal russe Rossiyskaya Gazeta, Xi Jinping a présenté sa venue comme un voyage d'amitié, de coopération et de paix face à des Occidentaux qui regardent la relation sino-russe avec méfiance. En France, le gouvernement est monté au créneau hier pour défendre la décision décriée de passer en force sur la réforme des retraites. Ce lundi, il doit surmonter 2 motions de censure à l'Assemblée nationale. Gaby Dorcil.
Fragilisé par la contestation, le gouvernement mené par la première ministre Elisabeth Borne a tenté hier dimanche de faire bloc. 2 motions de censure seront examinées ce lundi à l'Assemblée nationale, où le parti présidentiel Renaissance détient une majorité relative. Dans le cas arithmétiquement peu probable où une de ces 2 motions serait adoptée, le gouvernement serait démis et le projet sur les retraites repoussé. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a assuré ne pas croire à une union des oppositions de gauche, de droite et d'extrême droite autour d'une motion de censure. Des incidents se sont déjà produits dans la capitale jeudi et vendredi soir sur l'immense place de la Concorde près de l'Assemblée nationale que les autorités ont depuis interdite aux manifestants. Plusieurs secteurs clés de l'économie restent perturbés, notamment dans les transports, la collecte de déchets et l'approvisionnement en carburant. Depuis que l'exécutif a actionné jeudi l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter ce texte sans vote, la colère ne retombe pas chez les opposants à la réforme qui sont mobilisés depuis mi-janvier contre le passage de 62 à 64 ans de l'âge de départ à la retraite.
L'Égypte accueille des pourparlers pour tenter d'atténuer les tensions entre Israéliens et Palestiniens après une centaine de morts depuis le début de l'année. Par ailleurs, un Israélien a été grièvement blessé par balle hier en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël. Le point avec Nani Talani.
Réunis dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh, des responsables politiques et militaires israéliens, palestiniens, américains, égyptiens et jordaniens ont repris mot pour mot leurs engagements d'Aqaba en Jordanie, où ils s'étaient déjà retrouvés fin février. Le gouvernement israélien et l'autorité palestinienne ont redit vouloir arrêter les mesures unilatérales pendant 3 à 6 mois, selon un communiqué distribué par le ministère égyptien des Affaires étrangères. Ces mesures unilatérales, dénoncées par la communauté internationale, sont l'expansion de la colonisation juive en Cisjordanie, dont l'ONU répète qu'elle est illégale au regard du droit international. D'après le communiqué, Israël s'engage à cesser de discuter de l'établissement de nouvelles unités de colonisation pendant 4 mois et de ne pas légaliser les colonies sauvages pendant 6 mois. Un responsable israélien a toutefois ajouté, sous le couvert de l'anonymat, qu'il fallait encore la mise en place d'un dialogue pour aboutir à d'éventuels accords sur la cessation des mesures unilatérales. Une nouvelle rencontre aura lieu en avril en Égypte, d'après la diplomatie égyptienne.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
Selon un rapport de l'ONU, la culture de la coca a bondi de 35% entre 2020 et 2021, atteignant un niveau record. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime pointe l'émergence de nouvelles plaques tournantes de la drogue dans le sud-est de l'Europe et en Afrique. On compte plus de 300 000 hectares de plantations en Colombie, au Pérou et en Bolivie, et l'Afrique centrale et de l'Ouest jouent un rôle croissant de zone de transit. La Turquie et la Grèce voit aussi passer de plus en plus de cocaïne. Au Ghana, selon les services des statistiques, le taux d'inflation a enregistré une baisse de 0,8 points, passant de 53,6% en janvier à 52,8% en février. Ce taux s'explique par le ralentissement des prix alimentaires avec une inflation des prix non alimentaires inchangée, précise le rapport. Avec une dette estimée à 105% du PIB, le pays pourrait bénéficier d'un plan de sauvetage de 3 milliards de dollars du FMI. Le groupe chinois d'électroménager Haier a lancé la construction d'une usine à une quarantaine de kilomètres du Caire pour un investissement de 160 millions de dollars. L'unité qui devrait employer 2000 personnes et entrer en production en 2024 produira des climatiseurs, lave-linge, téléviseurs, réfrigérateurs et congélateurs. Le parc industriel vise à servir les marchés du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, de l'Est et Austral.
Merci Nathalie. À présent, les sports avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football pour commencer, fin hier de la 5e et avant-dernière journée des interclubs de la CAF. Et le TP Mazembe est éliminé de la Coupe CAF.
Oui, les Kobos, défaits 2-1 au Mali par l'AS Real de Bamako, ont essuyé leur 4e défaite de rang. À une journée de la fin de cette phase du groupe, ils totalisent 3 points, bien loin derrière à 7 unités des Tanzaniens de Young Africans et des Tunisiens de l'US Monasti qualifiés pour les quarts de finale.
D'écart que ne verront pas les deux autres clubs de la RDC.
La faute à leur contre-performance. Le Daring Club Motéba Pembe battu 2-1 à domicile par la SEC d'Abidjan et le Saint-Éloi Loupopo accroché 1-1 par l'USM Alger. Du coup, Ivoiriens et Algériens ont validé leur ticket, tout comme Marumo Galant d'Afrique du Sud et Rivers United du Nigeria. En revanche, tout se jouera lors de la dernière journée dans la poule C entre les Marocains du Phare de Rabat, leader avec 10 points, et les Égyptiens de Pyramide et Futu FC, classés respectivement 2e et 3e avec 8 points chacun.
En Ligue des Champions, cette équipe ont déjà validé leur qualification pour les quarts de finale.
Tout à fait. Et le tenant du titre, le Wydad de Casablanca, y fait partie après son nul 0-0 sur le terrain de l'ASV Club de Kinshasa, ainsi que les Algériens de la JS Kabylie, vainqueurs 1-0 des Angolais du Petro de Luanda. Le second club algérien, le CL Belouizdad, y sera aussi tout comme les Tunisiens de l'Espérance de Tunis. Dans la poule C, les Tanzaniens de Simba vont accompagner le Raja de Casablanca après leur démonstration 7-0 devant les Guinéens de Oroya. Qualification également des Sud-Africains de Mamelodi Sundowns qui se sont contentés d'un nul un partout au Soudan face à Al Hilal. Le dernier ticket se jouera justement entre le club soudanais et les Égyptiens d'Al Ahly du Caire.
Pour terminer, la balle au panier, la Basketball Africa League.
Oui, avec l'étape du Sahara qui se poursuit au Sénégal, le suspense reste entier à 2 journées de la fin de la compétition. 2 matchs au programme aujourd'hui et les Ivoiriens d'ABC joueront leur qualification face aux Nigériens de Kwara Falcon. Pareil pour les Rwandais d'Energy Group en tête du classement et les tenants du titre, les Tunisiens de l'US Monasti classés 5e qui vont s'affronter à partir de 19h temps universel. Les derniers matchs de cette conférence auront lieu demain.
Merci Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Nigeria, le dépouillement se poursuit après les élections de gouverneur et des assemblées locales de samedi. Le parti au pouvoir tente de regagner du terrain dans des états clés qu'il avait perdus lors de la présidentielle du 25 février dernier. Tous les regards sont en particulier tournés vers le riche état de Lagos, perdu par le parti au pouvoir au profit du parti travailliste de Peter Obi. Retour sur le déroulement de ces élections avec Gilbert Tamba à Abuja.
Ils étaient des millions de Nigériens à retourner aux urnes samedi pour des élections des gouverneurs, 3 semaines après l'élection présidentielle contestée du mois dernier. Les électeurs nigériens devaient choisir de nouveaux gouverneurs dans 28 des 36 États du Nigeria, mais aussi des centaines de députés des assemblées d'État. L'enjeu principal de ces élections était la motivation des électeurs. Réaction de Fortune Ujungwa, médecin, et de Naemeka Madouebouchi, joint au téléphone respectivement à Enugu et Ebonyi, deux États dans le sud-est du Nigeria.
Aujourd'hui, il y a une sorte d'apathie des électeurs, probablement à cause de ce qui s'est passé, où il se pourrait que cela ait également été orchestré pour retarder les électeurs lors de l'élection présidentielle. Le personnel de l'INEC est arrivé à l'heure, même maintenant, je viens d'arriver, il y a au moins 10 minutes, et j'ai déjà voté. Mais la dernière fois, j'ai passé presque 8 heures sans pouvoir voter.
Le taux de participation a été en fait si faible comparé à celui lors de l'élection présidentielle. C'était bien un pourcentage comme on s'attendait, parce que par exemple un bureau qui comptait environ 2000 électeurs inscrits lors de la dernière élection, nous avions eu environ 600 à 700 personnes qui se sont présentées pour voter. Mais cette fois-ci, le taux de participation a été si faible.
Une perte de confiance généralisée chez les Nigériens qui ont du mal à croire en la capacité de la Commission nationale électorale indépendante à organiser des élections crédibles après les couacs observés durant la présidentielle. Seuls 26% des plus de 87 millions d'électeurs inscrits au Nigeria se sont présentés pour voter lors des dernières élections. Peter Obi, le candidat du parti travailliste qui conteste les résultats de la présidentielle devant la justice, est tout de même allé voter samedi.
Il y a une très faible participation. Les gens voient que si leur vote n'aura aucun sens, pourquoi faire des efforts pour venir voter? Je ne veux plus parler de quoi que ce soit jusqu'à ce que nous voyons les résultats.
La bataille pour le contrôle de Lagos, la capitale économique et le centre commercial du Nigeria, l'une des plus grandes villes d'Afrique, était au centre de cette élection. Des violences et des accusations d'achat de votes ont été constatées. Le professeur Kamilo du département des sciences politiques de l'université de Kano dans le nord du Nigeria sur l'importance des élections de gouverneurs.
Tout ce que le gouvernement fédéral veut faire, si les gouverneurs ne sont pas satisfaits, ils s'uniront pour le bloquer. Ainsi, par cet arrangement, les gouverneurs ont un pouvoir politique, constitutionnel et économique qui les rend très influents dans la politique nigériane.
Bien que le Nigeria soit la plus grande économie d'Afrique et l'un de ses principaux producteurs de pétrole, le développement du pays reste un défi. En cause, selon beaucoup d'experts, la corruption endémique et la mauvaise gouvernance dans lesquelles des gouverneurs sont souvent cités. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
Au Tchad, les autorités du pays fustigent le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire qui ne favorise pas, selon elles, le vivre ensemble des Tchadiens. Elles reconnaissent la corruption qui gangrène le milieu judiciaire et interpellent les acteurs judiciaires, les exhortant à plus de responsabilités. C'était à l'occasion du 25e anniversaire du barreau qui coïncidait aussi avec sa première rentrée solennelle ce week-end à N'Djamena. Le syndicat des magistrats accuse plutôt l'exécutif d'ingérence. Un reportage de notre correspondant à N'Djamena, André Kotmajingar.
Il faut le dire sans complaisance. La justice tchadienne va mal.
Le général Mahamat Idriss Déby, président de la transition chef de l'État, prouve à l'appui. Il a illustré ses propos avec des exemples de dysfonctionnement de l'appareil judiciaire qui met à mal la cohésion sociale.
D'abord, le premier drame de Sandana qui a enregistré des morts et des blessés. Les coupables de ce terrible événement ont été arrêtés par les forces de l'ordre en 2019 et remis à la justice. Malheureusement, la justice a libéré ces coupables qui ont repris les mêmes crimes en Sandana D, faisant de nouveau des morts et des blessés.
Un cas similaire se produit dans le lac Tchad et les présumés coupables sont toujours en cavale et continuent de commettre les mêmes crimes en toute impunité.
Les forces de l'ordre ont arrêté par anticipation des personnes ayant l'intention prouvée de commettre des crimes. Ces personnes ont été mises à la disposition de la justice, mais elles ont été libérées et elles sont allées assassiner 12 citoyens et blesser 45 autres innocents citoyens.
Son ministre de la Justice, Ahmad Mahamat Alabo, est allé même plus loin. Pour lui, beaucoup de décisions judiciaires sont parfois rendues à la tête des clients, alors que le principe cardinal de toute justice, dit-il, est son indépendance.
Beaucoup de jugements sont arrangés, parfois achetés. En vérité, le mal est beaucoup plus profond.
Des propos qui ont fait réagir le vice-président du syndicat des magistrats du Tchad, Abdoulaye Bonokono, pour lui, c'est un problème de malgouvernance.
Dire que la justice va mal, je pense que le président est en train de faire un aveu et de chasser même les investisseurs économiques lorsqu'on sait que la justice est un critère important d'appel aux investisseurs. Plus loin, le ministre même de la justice, lorsque lui aussi à son tour, il fustige la justice, mais je pense que si la justice va mal, c'est que c'est lui le responsable. Qui gère ce pays? Nous avons tant décrié, dénoncé l'ingérence, l'immixtion de l'administration publique dans les affaires judiciaires. On crie tout le temps, mais rien n'est fait.
Le président de la République, Mahamat Idriss Déby, dit rêver d'un Tchad débarrassé de toute impunité et s'engage à rendre effective la séparation des pouvoirs.
Dans ce nouveau Tchad, personne ne doit être au-dessus de la loi, y compris le président de la République qui est le garant de la justice et président du Conseil supérieur de la magistrature. D'ailleurs, dans notre prochaine constitution, le président de la République ne doit plus être président du Conseil supérieur de la magistrature pour que la séparation des trois pouvoirs soit véritablement effective.
Il déplore une dynamique de politisation qui gagne progressivement le corps, allusion faite suite à la revendication de meilleures conditions de travail par les différentes corporations judiciaires à travers la rue. André Kodouma Dingar Njamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Gabon, pas de répit pour les familles des disparus du navire qui a coulé le 9 mars dernier à Libreville. Le gouvernement leur propose une meilleure prise en charge dans les installations de la Croix-Rouge situées à moins d'un kilomètre du port Mole. Elles s'y opposent et maintiennent les rituels des recueillements sur le quai. Derrière ce bras de fer à l'issue incertaine, suivez ce reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
C'est un site du port Mole de Libreville débarrassé de ses abris provisoires. Mais pour les proches des portés disparus, le recueillement se poursuivra ici jusqu'à l'évacuation à quai des dernières victimes de l'accident. Jeff Banzanza, président du collectif des familles de naufragés.
Plusieurs personnes viennent vers moi en me disant par exemple que je suis parti du port et je suis parti de la maison. J'ai accompagné mon frère ici au port et l'endroit où j'ai envie de l'accueillir, c'est ici au port.
Jeff Kumba soutient la cause des victimes du ferry. Pour lui, comme pour des dizaines d'autres familles désormais en plein air sur l'embarcadère, pas question de quitter ce lieu qui symbolise le drame du 9 mars dernier à Libreville. À bord du navire qui a coulé se trouvait son ami.
Le jour où on me l'a annoncé, je ne croyais pas. Je ne croyais pas et je suis venu 4 jours après sur le lieu et j'ai constaté que c'était vrai, c'était vrai. Malgré qu'on a pu retrouver le corps, mais le corps sans vie. Donc c'est pour ça.
Qu'est-ce que vous savez des recherches? Est-ce qu'elles sont arrêtées ou elles se poursuivent?
Les recherches étaient poursuivies. Hier, personnellement, j'ai vu qu'ils étaient en haute mer. Ils ont pu sortir un seul corps, pas plus, pas deux, un seul corps. Et jusqu'à maintenant, c'est ce que nous attendons parce que nous sommes vraiment très sûrs qu'il y a toujours des corps à l'intérieur du bateau.
Un bateau dont l'épave reste encore prisonnière des récifs. Cette catastrophe rappelait le pasteur Georges Bruno Goussy, le crash d'avion de 2004 au large de Libreville qui avait coûté la vie à son épouse. Acteur de la société civile, il est venu ce dimanche apporter du réconfort aux naufragés du port Mole.
La même cause produisant les mêmes effets. Il y a eu le naufrage du navire. Ce drame devait être suivi tout de suite d'un réveil collectif des secours sur tous ceux qui sont chargés d'apporter le secours. Mais ils ne l'ont pas fait.
Les sinistrés d'Esther Miracle, nom du navire, ayant perdu des documents en mer, suivent depuis quelques jours un processus de régularisation de leur situation administrative. Pour le gouvernement Bilibizé, l'heure des comptes approche.
Cet événement malheureux doit servir à tous les gestionnaires des affaires publiques. Il y a trop de négligence, trop de compromission, trop de passe-droit et trop de petits arrangements.
Plus d'une semaine après ce naufrage mortel, 33 personnes ont été interpellées dans le cadre d'une enquête pénale. Libreville, Smaïl Obianzé pour VOA Afrique.
Engagé dans le web activisme, spécialement la lutte contre les violences basées sur le genre sur Internet, Liliane Safi Charanguza est une jeune journaliste basée à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, depuis un temps à travers la blogosphère de Goma, ou Blogoma, une structure de jeunes blogueurs de Goma, et renforce les capacités des femmes journalistes et leaders d'opinion sur la sécurité numérique pour mieux lutter contre les violences basées sur le genre sur Internet. De Goma, Zanem Neti Zaidi.
L'objectif de Liliane Charanguza est que tout le monde, spécialement les femmes, accède proprement à Internet et en toute sécurité. L'idée est de construire une société numérique propice au développement de la femme et où elle n'est pas victime des harcèlements physiques et psychologiques. Profitant du mois de mars, un mois consacré à la défense et la promotion des droits de la femme, Liliane Charanguza renforce les capacités des femmes en sécurité numérique.
Nous avons pris des engagements et l'engagement selon lesquels nous allons chaque fois être, je ne dirais pas des observateurs, mais nous allons veiller à ce que tout le monde se sente à l'aise sur les réseaux, notamment les femmes. Après cette activité, nous avons créé un groupe des champions. Et là, pour travailler en réseau, pour signaler par exemple les comptes des harceleurs, signaler le contenu qui harcèle les femmes sur les réseaux.
La journaliste Chantal Kahashi fait partie des femmes formées en sécurité numérique par Liliane Charanguza. Elle explique que la dite formation lui a permis de comprendre ce que sont les violences basées sur le genre sur Internet et comment y faire face. Elle avoue en avoir été victime.
On a été un jour victime de ça. C'est pas même une fois, c'est plusieurs fois. Mais grâce à cette formation, nous avons appris comment on peut lutter contre ces genres de violences basées sur les gens en ligne. On nous a appris comment sécuriser nos éléments, comment utiliser nos réseaux sociaux avec prudence pour que nous ne puissions pas tomber dans des pièges de personnes mal intentionnées.
De son côté, la blogosphère gomatracienne, une structure des jeunes blogueurs de Goma, dit se réjouir des résultats de ses formations. Son coordonnateur adjoint, Innocent Boutchou, explique pourquoi il était important de sensibiliser les femmes sur le numérique durant ces mois de mars.
Nous devons tous nous liguer pour combattre toutes ces formes de violences basées sur le genre qu'on voit en ligne. Donc qu'on arrête de ramener à chaque fois la femme, à certains hommes par manque d'arguments dans des histoires de beauté et tout. Donnons la chance à la femme de se battre au même titre que les hommes.
Zanem Neti Zaidi, à Goma, pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sebloudia, à la mise en onde de Michel Joseph, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.